professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent Renaud.
Et bonjour Fabrice, bonjour les auditeurs.
Vincent Renaud sur Nutri Radio, c'est chaque mardi entre 9h et 10h pour bien démarrer la journée. Et si vous nous écoutez en podcast, eh bien c'est quand vous voulez, évidemment, à partir de 10h, puisque dorénavant et depuis quelques temps maintenant, les podcasts sont mis à dispo juste après la diffusion sur le live de Nutri Radio. On remercie notre partenaire, le laboratoire COPMED, laboratoire français qui nous accompagne sur ces émissions pour cette saison encore. Merci à vous. On va rentrer en phase de négociation. J'espère que vous serez là l'année prochaine.
Oui.
Alors, non, mais c'est important d'avoir des partenaires solides sur lesquels s'appuyer, parce que sinon nos missions d'information, bon, on les ferait dans notre cave, en vérité.
Donc, bah oui, puisque c'est une radio privée.
Voilà, radio privée, on a besoin de 2-3 deniers si vous voulez, pour avancer, pour l'électricité, pour acheter des nouveaux micros. Voilà. Donc,
exactement, pour servir le café au présentateur.
Exactement. Alors, vous savez que le manque d'argent, c'est pas un mal finalement, parce qu'on n'a plus de sucre pour le café. Donc, on
et
prend le café sans sucre. Donc
du
ça,
coup,
c'est pas mal.
Pour le protocole de Schwartz dont on a parlé la semaine dernière,
vous voulez revenir sur le protocole
je
de
rebondis. Eh ben, on n'a pas terminé.
Ben non, parce que c'est vrai que vous vouliez parler de la berbérine la semaine dernière, et vous pouvez écouter le podcast. On a parlé de l'acide alpha-lipoïque, du Garcinia Cambogia, qui sont. Alors, le Garcinia qui a reçu un avis négatif de l'ANSES et qui devrait, selon toute vraisemblance, être interdit bientôt, mais. Rien n'est encore joué, en tous les cas il y a une alerte, les auditeurs sont inquiets, hein. Vous avez été nombreux à envoyer des mails pour savoir ce qu'il fallait faire. L'acide alpha-lipoïque c'est pareil, il n'a pas eu d'avis négatif de l'ANSES pour l'instant, mais en gros il est sous le feu des projecteurs, tout comme d'ailleurs la berbérine qui est un metformine-like en phytothérapie.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur cet ingrédient et aujourd'hui ce qu'on lui reproche?
Bon, la berbérine, c'est rentre dans une grande famille qu'on appelle des alcaloïdes, qui est issue d'une plante, en particulier c'est l'hydraste du Canada, mais il y a l'épine vinette, il y a d'autres plantes, c'est une petite baie, hein, un petit fruit rouge, enfin ça fait une espèce de d'huile, hein, une substance un peu huileuse. Ça fait 4000 ans qu'elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour ses effets intéressants sur la flore intestinale, particulièrement dans les diarrhées. C'était préconisé pour tout ce qui était diarrhée motrice, diarrhée infectieuse et problèmes de la sphère digestive. Et évidemment, plus récemment, cet ingrédient a été isolé et utilisé pour la prise en charge des hyperglycémies chroniques, de l'insulinorésistance ou des prédiabètes. Ce n'est pas un traitement du diabète. Hein. Il faut bien préciser que la berbérine ne se substitue pas à un médicament antidiabétique que les patients qui prennent des traitements antidiabétiques oraux ne se disent pas « Tiens, je vais arrêter ça et je vais prendre la berbérine à la place. » On a des effets effectivement un peu similaire à la metformine, mais à la différence d'une plante par rapport à un médicament, c'est que le médicament, on contrôle mieux les effets et la pharmacocinétique. Sur une plante, c'est plus compliqué. La biodisponibilité, la pharmacocinétique n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des formes plus ou moins bien dosées avec une purification de la berbérine, et on sait très bien que les laboratoires de compléments alimentaires essayent d'avoir une concentration en berbérine le plus possible. Parce que c'est pas parce que vous avez marqué berbérine sur l'échantillon, sur le pot de complément alimentaire, que vous avez forcément 100% de la berbérine. Vous avez la plante titrée en berbérine. Donc il faut toujours bien regarder, c'est en général 10, 15, 20%. Alors il se trouve que l'hydraste du Canada et l'épine vinette sont les plus concentrés. Maintenant les laboratoires arrivent à des doses presque pharmacologique, et c'est pour ça que cette berbérine est sous le feu des projecteurs, parce qu'il y en a des études qui ont montré à des doses de 500 mg de berbérine 3 fois par jour, on arrivait à contrôler en particulier la glycémie à jeun, le HOMA et l'hémoglobine glycosylée. Donc on faisait pas aussi bien que la metformine, mais en tout cas on s'en rapprochait de manière assez, assez significative. C'est ce qui a suscité évidemment l'interrogation des organismes de contrôle des compléments alimentaires en se disant, mais attendez, là on va sur des indications médicales de la berbérine, et du coup chez des gens qui ne sont ni médecins ou le grand public qui se disent, bah tiens, voilà peut-être une solution pour traiter ma maladie, je n'ai plus besoin d'aller voir mon diabétologue, mon endocrinologue, mon médecin, etc. Je vais m'automédiquer, je vais bouffer mes petites gélules et tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est ça, en gros, que dénoncent l'ANSES et les organismes européens, en particulier l'EMA, l'European Medicinal Agency. Alors, je dis toujours, comme j'ai dit la semaine dernière, je m'en réjouis d'un côté, parce que c'est vrai qu'il faut réglementer et que ça se prend pas à la légère, la berbérine, le diagnostic déjà de diabète de type 2, ça se fait par un médecin, une prise de sang, un interrogatoire, un peu double centimètre, mesurer le tour de taille, il faut vérifier que effectivement vous rentrez bien dans les critères d'insulinorésistance. Est-ce qu'il faut rappeler ce que c'est que l'insulinorésistance? Je ne sais pas si...
C'est tout fait, évidemment, on accueille tous les auditeurs, y compris ceux qui découvrent ces émissions et qui commencent à s'intéresser à leur santé. Donc, allez-y.
Eh bien, vous savez que l'insuline est une hormone extrêmement importante et elle a deux visages. Hein. Moi, je dis souvent, l'insuline, c'est ange-ou-démon. Grâce à l'insuline, nous avons survécu à la famine. C'est l'insuline qui commande à nos cellules le stockage des graisses et en particulier des sucres. Donc c'est une hormone anabolisante, elle stocke. Après les repas, on a un pic d'insuline qui permet de faire rentrer le carburant dans les cellules, en particulier les cellules graisseuses. Donc les cellules graisseuses, ce sont les réservoirs d'essence et on va les utiliser au fur et à mesure de la journée en fonction de nos dépenses énergétiques. Donc l'insuline, c'est quand même une hormone très importante dans le contrôle et la régulation du stockage de nos énergies, de notre carburant sous forme de triglycérides dans les cellules graisseuses. C'était bien, évidemment, il y a dans les périodes anciennes où on n'avait pas forcément accès à la nourriture à toutes les saisons, à toutes les périodes de l'année. Maintenant, on est dans la surabondance depuis 50 ans. C'est pour ça que je dis que, ange ou démon, elle nous a protégés de la famine, mais aujourd'hui, elle nous pose problème parce que cette surabondance de notre alimentation, cet excédent en particulier de glucides, les sucres sont présents partout dans l'alimentation industrielle. On a multiplié par 10 la consommation de sucre en 100 ans, c'est considérable, et nos cellules n'étaient pas prêtes et préparées à ce genre d'événements. Et donc, pour s'adapter, c'est l'insuline qui a commencé à être sécrétée en plus. Il a fallu produire plus d'insuline pour faire entrer plus de glucides, et donc le pancréas, qui est l'usine à produire de l'insuline, s'est dit, on va fournir, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain nombre d'années, dans cet hyperinsulinisme et cet emballement que notre organisme va développer, phénomène d'adaptation, à un moment donné, le pancréas, il dit stop. Il va s'oxyder, les cellules qu'on appelle les petits îlots qu'on a dans le pancréas, qu'on appelle les îlots de Langerhans, à un moment donné, ils s'oxydent, ils ferment le robinet et il n'y a plus de production d'insuline. Et quand il n'y a plus de production d'insuline, on rentre dans ce qu'on appelle le diabète. Alors, diabète au début non-insulino-dépendant, mais qui peut devenir insulino-requérant au bout d'un moment, quand il n'y a plus du tout de capacité de production de votre pancréas. Donc, cette insulinorésistance, le fait que le corps s'emballe à fabriquer beaucoup plus d'insuline qu'on en a réellement besoin, crée de l'inflammation, crée du stockage et une augmentation de la graisse viscérale. On se met à avoir des petites cellules graisseuses qui se multiplient, c'est de l'adipogénèse. Des petites cellules graisseuses qui se remplissent aussi, c'est la lipogénèse. Tout ça sous l'effet de l'insuline et notre mode de vie. Hyperinsulinisme. Avec insulino-résistance, pourquoi? Parce que on a besoin de plus en plus d'insuline pour faire rentrer la même quantité de sucre. Admettons que vous mangez une pizza, cher Fabrice, ce midi, j'espère que non. Non, vous n'avez pas prévu de manger une pizza ce midi?
Non, moi, je suis en jeûne intermittent. Là.
En jeûne intermittent. Donc, vous mangez par exemple une pizza qui contient environ, un chiffre au hasard, 100 grammes de glucides. Pourquoi pas? Ce ne serait pas faux, mais 100 grammes de glucides dans une belle pizza, ça fait quand même beaucoup de sucre. Normalement, pour faire entrer ces 100 grammes de glucides en postprandial, vous auriez besoin d'environ 10-15 unités d'insuline. Ben là, vous allez être obligé d'en fabriquer 20, 30, 40 unités d'insuline parce que les récepteurs à l'insuline ne sont plus efficaces. Donc, vous allez envoyer de l'insuline sur vos cellules périphériques, cellules musculaires, cellules graisseuses et cellules cérébrales, qui sont les cellules glucodépendantes, qui ont besoin de sucre. C'est une clé pour ouvrir une serrure. L'insuline, normalement, c'est un système clé-serrure. J'ouvre une porte et je fais rentrer le sucre dans ma cellule. Là, le problème, c'est que le barillet, il est abîmé. Donc, insulino-résistant, c'est-à-dire que la clé ne rentre pas. Donc, vous avez des récepteurs inefficaces. Donc, à un moment donné, si la clé ne rentre pas dans la serrure, on va envoyer d'autres clés. On va se dire, c'est peut-être la clé qui est abîmée. On va essayer, puis on va essayer une autre serrure. On va essayer de la remplacer. Puis à un moment donné, on va trouver une petite sonnette. Dring. Ah, ben quelqu'un vient vous ouvrir. Bonne nouvelle. Ça, ce sont des mécanismes d'adaptation, d'autres récepteurs qui viennent au secours. Grâce à la berbérine, on peut augmenter cette capacité de sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que je faisais cette petite image de la serrure. Je voyais Fabrice me regarder. Il dit, qu'est-ce qu'il nous parle de serrure là ? C'est quoi cette histoire ? La berbérine, en fait, c'est un peu notre serrurier. C'est lui qui vient soit remplacer la clé qui est usée, puisque ça peut être aussi l'insuline elle-même, la clé qui est biseautée, parce qu'elle a trop servi, elle ne rentre pas dans le barillet, soit c'est le barillet qui est pourri, qui est complètement déglingué, donc on ne peut pas rentrer. Donc il faut apporter des solutions, et la berbérine apporte ces solutions. Donc c'est, évidemment, on l'a vu comme un produit miracle, surtout si on l'associe à du chrome, à la cannelle, à de l'extrait de feuilles d'olivier, à d'autres substances phytoactives. Et là, on a des solutions vraiment intéressantes dans ce stade d'insulino-résistance.
On va marquer une première pause et ce sera la seule de cette émission. Merci Vincent Renaud. Vous êtes en forme aujourd'hui. C'est mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, vous étiez un peu fatigué. Et là, ouais, cette semaine, en pleine forme.
Là, j'ai la patate, j'ai la banane.
Hein, c'est la vie. Hein. Des fois, on est un petit peu moins bon. Mais Vincent Renaud, c'est l'élève qui avait toujours 18 sur 20. Et puis un jour, il rentre chez lui, il a 16 sur 20. Il n'est pas content. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça passe quand même. Allez, petite pause.
Alors n'écoutez pas, c'est pas vrai. J'ai jamais été un très bon élève, je rassure les cancres. Il faut des cancres, il faut des bons élèves. Mais pas que des premiers de la classe.
Un jour, on reparlera de ce système de
notation. Einstein n'était pas premier de la classe, hein, je suis désolé. Il était même spectre autistique d'ailleurs.
Ah, le mec se compare à Einstein quand même, ça y est.
Non, j'aimerais bien, mais je suis à des années-lumière.
Je vous taquine. Allez, petite pause et on se retrouve après ceci.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Le retour de cette émission, deuxième dernière partie avec le docteur Vincent Renaud. Avant de reprendre ce sujet passionnant et une meilleure connaissance de la berbérine, rappelez quand même que vous serez présent au NutriTalk Gala. C'est la deuxième édition. On avait fait une édition l'année dernière comme ça, ça a tellement bien marché, on se dit maintenant on va la faire tous les ans, on voit plus grand. De toute façon c'est comme ça, on peut pas s'arrêter là. Et donc le 12 juin, rendez-vous au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer, c'est sur la Côte d'Azur, le lieu il est incroyable, la salle elle est incroyable. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais si quand même, je vais quand même vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus, mais quand même. Donc vous allez avoir des interventions passionnante, avec des passionnés, le docteur Laurent Schwartz, le professeur Vincenzo Castronovo, le professeur Stéphanie Alassonnière, le docteur Stanley Durlman, je fais un enchaînement de noms, mais pour bien vous expliquer, le docteur Christian Vélo, le docteur Alexandre Mancier, docteur Olivier Coudron, docteur Pierre Maldinet, Angélique Coulbert, Patrick Martini, et je termine par votre serviteur du jour, le docteur Vincent Renaud. Il y a même d'ailleurs, Frédéric Lange, chirurgien, qui sera là aussi sur scène. La thématique cette année, c'est la santé mentale, cognitive et émotionnelle. C'est des interventions, je peux vous dire, à ne pas rater. Évidemment, c'est du talk, donc vous pourrez poser vos questions. Et puis ensuite, on enchaîne avec un côté plus festif, un show, des surprises. Je ne vous en dis pas plus, mais préparez-vous à tout et son contraire. Voilà. À tout et son
et
contraire.
Et vous n'avez pas invité votre copain, là, Mohamed.
Jimmy Mohamed, mais il est
Jimmy,
bienvenu.
Jimmy Mohamed, il est notre copain. D'ailleurs, il n'a pas répondu à mon invitation.
Il s'en fout.
Il est débordé.
En tout cas, voilà. C'est un docteur qui a, en tout cas, qui sait communiquer et qui a des informations souvent très intéressantes, donc on l'aime beaucoup. Et parfois, de toute façon, même vous, hein, vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous.
Ah non, bien sûr, c'est le but.
Et s'il pouvait venir, ce serait excellent, mais il n'est pas prévu. En tous les cas, si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site nutriradio.fr. allez-y ou sur le site directement nutrigala.fr. Et on remercie évidemment les partenaires de cet événement, bah, sans qui voilà, on aurait du mal aussi à organiser tout ça. C'est de 14h à 3h du matin.
Ouf.
Donc, c'est pas 14h, 3h du matin en mode conférence, rassurez-vous. Il y aura du fond et du fun, le NutriTalk Gala. On reprend notre aventure sur la berbérine. Vous nous avez vanté ses mérites. Maintenant, quand même, j'aimerais bien qu'on parle du côté un petit peu obscur de la berbérine, mon cher Vincent.
Alors, côté obscur, ben, on va dire que c'est toujours un peu la même problématique comme l'acide alpha-lipoïque ou le garcinia. Quand vous avez un complément alimentaire qui marche aussi bien que, pratiquement aussi bien en tout cas, qu'un médicament allopathique, ça suscite des contradictions, des débats. De savoir est-ce que finalement cet ingrédient ne devrait pas être sous un contrôle plus sanitaire, vérifié comme on avait parlé de novel food. Maintenant, vous savez ce qu'est la novel food, puisque
mais je le savais, mais j'avais confondu. Là.
Fabrice nous a fait une brillante définition la semaine dernière que cette fameuse berbérine. Il voudrait, enfin, ça serait, c'est une des hypothèses, puisque ça, c'est au niveau européen que ça se passe, c'est pas au niveau français, faire que les ingrédientistes et les façonniers ou les fabricants et les laboratoires ne dépassent pas un certain dosage de berbérine dans leurs compléments alimentaires. Jusqu'à présent, on a des compléments qui montent jusqu'à 500 mg par gélule, ce qui fait quand même des doses assez importantes, pratiquement aussi efficaces, mais attention, ça ne remplace pas la metformine, je le précise. Et donc, ça fait un petit peu peur. Alors, est-ce que c'est l'industrie pharmaceutique qui fait du lobbying en disant « Oh là là, on a des plantes qui marchent aussi bien que nos médicaments ». En ce moment, il y a un regain, évidemment, d'intérêt. Tout le monde veut du naturel, du 100% naturel. Et donc, du coup, ça fait des parts de marché en moins pour les médicaments. Je ne pense pas que ce soit... voilà, je ne fais pas partie de la théorie du complot.
Arrêtez avec ce mot complot, j'en peux plus.
Oh, oui, on n'en peut plus. Dire, c'est vrai, complot, on ne peut plus rien dire. Complot, complot. Je pense que, tout simplement... l'automédication, la prise de certains compléments alimentaires à forte dose sans un avis médical pose problème. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas interdire des compléments efficaces parce qu'il y a forcément des résultats, une demande, un marché qui se développe et c'est compréhensible, ben, ils essaient de trouver une astuce pour dire ben, on va diminuer, on va dire que ça sera 250 et pas 500 parce que comme ça, du coup, on n'aura pas l'effet de la metformine parce qu'on sera moins dosé. Bon, je ne me prononcerai pas. Je pense que c'est peut-être un peu hypocrite. J'en sais rien. En même temps, c'est aussi la preuve que la berbérine marche bien. On a le problématique avec aussi le biquinol, la coenzyme Q10 à un moment donné. Je sais qu'elle est remboursée par exemple dans l'insuffisance cardiaque au Japon pour les problèmes de cardio, de myocardiopathie. Peut-être qu'un jour, et je crois que d'ailleurs dans les tuyaux, ils sont en train aussi de débattre par rapport à la réglementation du biquinol et de la coenzyme Q10, parce qu'on voit de plus en plus ces ingrédients s'améliorer, progresser. Les laboratoires de compléments alimentaires font d'énormes efforts pour essayer d'avoir une qualité pharmaceutique. Nous, au Sinamief, on est favorable, je pense, à une meilleure régulation de la formation des médecins, des professionnels de santé, à cette approche intégrative et fonctionnelle, à l'utilisation des compléments alimentaires. Moi, j'ai fait 2 DU de phytothérapie et durant tous les DU de phytothérapie, les enseignants que j'ai pu avoir nous ont toujours mis en garde aux effets secondaires. Ne pas donner chez la femme enceinte, ne pas donner chez l'enfant, ne pas donner chez les personnes en chimiothérapie. Il y a des précautions d'emploi, il y a des réglementations et c'est normal. Ça prouve bien que la phytothérapie est très efficace. Et je trouve que c'est pas plus mal. Maintenant, c'est peut-être un peu hypocrite de dire on va descendre à 250 au lieu de 500. Bah, à ce moment-là, vous allez prendre 2 gélules au d'une. Hein. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Fabrice. Si je descends à 250, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 2 gélules pour avoir l'effet des 500.
Oui, c'est un peu...
C'est un peu... Voilà, ça n'a pas un grand intérêt. Je pense
c'est
qu'il
le budget
faut...
qui va changer.
Moi, je pense que ça serait plus intelligent... et là je défends pour ma paroisse, de mieux former les professionnels de santé et les jeunes médecins en particulier à la prescription de ces plantes certainement très actives. J'ai connu l'époque où on remboursait la glucosamine, la chondroïtine, l'arpagophytum, on remboursait les plantes pour les veines toniques. J'ai connu cette belle époque où on remboursait les veines toniques. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sous dans la caisse. Donc on va vers le déremboursement. Donc il ne faut pas rêver, on ne remboursera pas l'acide lipoïque, on ne remboursera pas le garcinia, on ne remboursera pas la berbérine. Mais qu'on les encadre un peu plus, c'est certainement une bonne chose, de manière à ce qu'on soit respecté et pris au sérieux quand on va aller discuter sur la formation des médecins et des professionnels de santé, en leur disant, ben voilà, il n'y a pas que de l'allopathie à prescrire quand vous êtes jeune médecin, vous pouvez aussi vous intéresser à des plantes et à de la phytothérapie. Et la berbérine fait partie de ces futures indications, et j'ai régulièrement des stagiaires, des médecins qui viennent assister à mes consultations, à mes journées, et ils sont émerveillés de voir qu'on peut faire des tas de choses avec les compléments alimentaires. On peut alors, j'allais dire traiter, le but c'est pas soigner des gens, le but c'est d'accompagner des gens dans des problématiques santé et de leur donner des outils pour qu'ils soient acteurs de leur santé et qu'ils ne soient plus des moutons à prendre des gélules sans savoir ce qu'il y a dedans.
Oh là là, ça y est.
Bêh.
Mouton, conflot, c'est les deux mots ont été prononcés dans cette émission.
Diaboliquement vôtre. Donc, alors, bienvenue attendez. Dans le monde...
Oui, non, allez-y.
Non, mais bienvenue dans un monde un peu mieux. Alors, sous contrôle... alors c'est pas l'œil du sphinx. C'est ça, hein. Certains,
l'œil de Moscou, j'ai cru que
l'œil de Moscou.
On a hésité. Dès que maintenant il y a des mots, dès qu'on dit des mots, il a tremblé. On a tremblé tous les deux.
Trump et Poutine, c'est des mots qu'il faut pas dire ici.
Il
hein.
y a des mots là, des villes. Oh, là. Bon, bref, en tous les cas, merci.
Alors voilà, moi en tant que président du CINAMIEF, oui. je me dois de donner finalement un accord plus ou moins favorable à ces nouvelles réglementations, parce que je pense que ça va dans ce sens-là. Si on arrive et on brandit des pancartes « libérer, libérer, libérer », ça va être un peu l'anarchie, on voit ce qui se passe dans certains pays, et ce n'est pas forcément une bonne chose de prendre des 20, 30, oui, 40 pilules tous les matins sans savoir ce qu'il y a dedans.
Il faut un encadrement, en tout cas des lieux de délivrance peut-être un peu moins larges, et bon après c'est d'autres lobbies, les lobbies alimentaires, industriels, bref, mais sur la réglementation, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une réglementation qui soit rigoureuse pour protéger les populations, mais pour revenir au statut Nouvelle Food par exemple, puisqu'on le rappelle, le statut Nouvelle Food c'est un cadre européen qui s'applique à tout ingrédient alimentaire, y compris donc des compléments alimentaires, qui n'était pas consommé de manière significative avant mai 1997. Ça veut dire qu'un ingrédient qui n'était pas consommé de manière significative avant mai 1997, aujourd'hui, il doit être considéré comme Novel Food et donc faire l'objet, avant d'être sur le marché, d'une autorisation préalable. Ce sont des dossiers très très lourds. 1997. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette loi elle a été proposée ?
Non.
En 1997. Donc, on pourrait se dire aujourd'hui, on est quand même en 2025, si la loi devait sortir aujourd'hui, il parlerait de date de référence de 2025. Et donc, beaucoup, et logiquement, on peut se dire pourquoi aujourd'hui on reste sur cette date référence de 1997. C'est pas très logique et c'est un peu contre-intuitif, parce que même s'il s'agit de protéger la population, entre-temps, aujourd'hui, le monde il a quand même radicalement évolué. Changé. Hein, explosion de la phytothérapie, des compléments alimentaires, des super aliments, des échanges mondiaux, beaucoup plus de capacités d'analyse en toxicologie, en pharmacocinétique, etc. etc. Et le règlement, il ne tient pas compte de l'usage réel depuis 20 ans. Et ça, c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que les règlements avancent, mais pas forcément toujours en étant collés à une actualité.
C'est ça. C'est la lourdeur administrative, et j'en discutais il n'y a pas longtemps au téléphone avec Nicolas Capeller, hein, président du CINADIET et de l'EHPM maintenant. Il me dit, tu imagines pas les dossiers, les heures qu'on passe, les avocats pour essayer de faire comprendre à des politiques qui sont pas de la partie santé ce que aujourd'hui on est capable de faire et quelles sont les avancées technologiques dans les ingrédients, dans les formulations des compléments. Il y a une sécurité qui est équivalente de celle du médicament, voire peut-être même plus. Quand on voit qu'il y a encore quelques scandales il y a pas si longtemps que ça avec certains médicaments, vous voyez bien que malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Le complément alimentaire n'aura pas la même aura et le même respect auprès des politiques que le médicament, qui reste encore dans l'inconscient des politiques la référence pour se soigner.
Et c'est pas faux.
Oui, ça reste la référence. Mais attention,
dire, faut le dire.
De ne pas dénigrer non plus et de traiter à la légère en disant « Ouais, bon, ça c'est des conneries, ça marche pas. » Les compléments alimentaires, j'entendais ça à la télévision, parce que ça marche, c'est efficace. Et de se moquer des compléments alimentaires, ça empêchera pas les gens de se s'automédiquer, voire ils vont se dire « Oh bah ils disent que ça sert à rien, donc c'est pas dangereux. » C'est encore pire. Donc je pense que les politiques doivent regarder de manière très sérieuse, au cas par cas, et d'ailleurs en off, c'est les premiers à en consommer, ça je suis certain qu'ils avalent des tonnes d'acide lipoïque, de berbérine tous les jours, surtout avec tous les repas d'affaires qu'ils font. Du glutathion, veux-tu, voilà. Non, je connais quelques députés européens et aussi...
On les embrasse. Attendez, on va avoir des problèmes.
On les embrasse, les politiques. Non, mais je sais qu'ils sont fans des compléments alimentaires. Je pense que même Emmanuel Macron en prend tous les matins.
Bon, ne parlez pas d'Emmanuel Macron, on va avoir des problèmes. Attendez, qu'est-ce que c'est pas de la mission politique.
Il n'y a pas de honte. Moi, je serais très fier de savoir que mon président...
De toute façon, la majorité des Français prennent, je crois que c'est 65 à 70%
bien sûr.
Des Français prennent quotidiennement des compléments alimentaires. Et après, des compléments alimentaires, il y en a des bien dosés, des mal dosés, il y en a des bien faits, des moins bien faits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est un, revoir peut-être ce règlement Novel Food, deux, ne pas autoriser tout le monde et n'importe qui à pouvoir rentrer sur ce marché du complément alimentaire. Parce que la vérité aujourd'hui, vous sortez d'une école du commerce. La vérité aujourd'hui, vous sortez d'une école de commerce. Même moi, demain, là, si je veux, je sors ma gamme de compléments, j'y connais rien. Et puis voilà, c'est parti. C'est ça le problème.
Ouais, ça,
voilà,
c'est...
mesdames, messieurs.
Voilà le coup de gueule de Fabrice. Il a raison. Dans la rue.
Bon.
Effectivement, 250% de croissance le marché du complément alimentaire en 10 ans.
Moi, j'ai un complément alimentaire qui va s'appeler le Vincent Renault.
Je vais lancer ma marque.
Chacun marque sa marque. Allez, c'est parti. Bon, allez, merci beaucoup, messieurs, si vous voulez sortir votre marque.
Rock and roll.
Je sais pas. Moi, d'ailleurs, je vais aller voir ma boulangère. Je vais demander. Tiens, Marc.
Tout le monde. Allez, faites-moi une gamme avec du levain.
Allez, c'est parti. Cette émission, elle est dispo à partir de maintenant tout de suite sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et dans quelques minutes à peine sur toutes les plateformes de streaming audio comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer et pensez à vous abonner s'il vous plaît quand vous nous écoutez à travers ces plateformes. Ça nous donne de la puissance pour le référencement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Au revoir Vincent.
Merci à vous tous, merci Fabrice, à la semaine prochaine.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutriradio.